Tu es digne, Seigneur, de recevoir pendant cette soirée encore l'adoration de nos cœurs. Il est bon de nous courber devant toi dans l'humilité et te dire que tu es le Seigneur, le Sauveur, le Rédempteur. Par ton sang précieux, tu nous as rachetés et tu as fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Pour Dieu notre Père, désormais nous t'appartenons et nous te donnons toute gloire. Que cette soirée te glorifie, Seigneur. C'est ma prière la plus ardente. Que ton nom seul soit exalté, car toi seul en es digne, Seigneur. Tout ce que nous recevons est par grâce et à cause de tes souffrances sur la croix. Oui, à toi revient la gloire, la puissance et le règne dans tous les siècles. Amen.
Amen.
Alléluia.
Alléluia.
Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Il est bon une fois de plus de nous tenir dans sa sainte présence. On passerait toute notre soirée à l'adorer, n'est-ce pas? Et vous savez, ça ne me dérangerait pas. Je n'ai pas la prêchomanie. Ça ne me dérangerait absolument pas. Je vous dirais presque que ça m'arrangerait. Mais bien sûr, il faut annoncer sa parole. Mais le premier ministère de l'enfant de Dieu est l'adoration. Et quand on a bien adoré, je pense qu'on peut bien prêcher après. Quand on a bien adoré, je pense qu'on peut bien prier aussi. Quand on a bien adoré, je crois qu'on peut bien témoigner de lui. L'adoration ouvre notre cœur à toutes les grâces divines. Alléluia. Ainsi que le Seigneur bénisse sa parole ce soir encore. Nous avons tant besoin d'entendre sa parole aussi, n'est-ce pas vrai? Combien de... Cette parole est précieuse dans les temps que nous vivons. Et Dieu soit béni pour cette parole de vie, cette parole d'autorité qui peut encore répondre à nos besoins profonds. Nous poursuivons donc nos méditations sur le thème du pardon qui guérit. Et pour ce soir, j'aimerais vous donner un sujet aussi très important. Je veux dire, un effet encore du pardon dans un domaine précis de notre vie qui nous concernera encore tous. Nous allons donc voir ce soir que le pardon guérit l'esprit de crainte en nous. Le pardon guérit la crainte. La crainte. Car la crainte, c'est comme un géant qui paralyse des multitudes d'individus. Mais le pardon du Seigneur guérit cette crainte. Et j'aimerais vous donner 5 vérités ce soir qui vont nous permettre d'être libérés de cette crainte et de servir le Seigneur dans la joie et dans la paix. Nous allons prendre comme texte de base l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 23. Jean chapitre 20, versets 19 à 23. Le Seigneur Jésus, avant d'envoyer ses disciples dans le monde, voulait absolument guérir quelque chose dans leur vie. Il y avait encore un problème avant qu'il les envoie. Et quel était ce problème? Nous allons le voir maintenant. Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte. Les disciples étaient donc dans la crainte. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Voyez-vous la crainte ? Ça ne part pas toujours tout de suite. Et le Seigneur, à double reprise, il a dû apporter cette paix. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pourquoi les disciples étaient dans la crainte? Parce qu'ils avaient une dent contre les Juifs. Autrement dit, ils n'avaient pas pleinement pardonné ceux qui avaient crucifié le maître. Et ils avaient peur de ces hommes. Mais pourquoi avaient-ils peur? Parce qu'ils n'avaient pas pardonné dans leur cœur. Vous savez qu'on a souvent peur de quelqu'un parce qu'on ne lui a pas pardonné. Si vous avez peur de quelqu'un, c'est que vous n'avez pas pleinement pardonné à cette personne. Parce que vous n'avez pas peur de quelqu'un que vous aimez. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Si moi je vous aime sincèrement, pourquoi est-ce que je vais avoir peur de vous? Dites-moi un peu. Pourquoi est-ce que je vais avoir peur de vous puisque je vous aime? Mais je vais un peu trembler devant vous si dans mon cœur, je ne vous ai pas pleinement pardonné. Et le Seigneur a discerné cela. Il a bien vu que ses disciples avaient encore un petit problème. La crainte qui était là à cause d'un non-pardon dans leur cœur. Nous voyons donc par là que le Seigneur a dit à ses disciples, « Allez maintenant, comme le Père m'a envoyé pour pardonner, je vous envoie aussi pour pardonner. Et si vous allez pour pardonner, vous n'aurez peur de personne. » C'était le moment de dire « Alléluia ». « Vous n'aurez peur de personne ?» Si vous pardonnez à tout le monde. Et les disciples avaient besoin d'entendre cette parole et surtout de mettre en pratique cette parole. Comme le Père m'a envoyé pour pardonner, moi aussi je vous envoie maintenant. Alors pardonnez, pardonnez à ceux-là. Ils ont fait cela. Mais moi, sur la croix, n'avez-vous pas entendu cette parole que j'ai dite déjà ? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je leur ai déjà pardonné. Mais si vous voulez être utile auprès de ces hommes maintenant, alors je vous demande une chose, de pardonner aussi. Sinon, vous serez littéralement paralysés par cette crainte. Cette crainte sera comme un géant dans votre vie qui vous empêchera de vous épanouir et de sortir pour aller apporter le message libérateur de notre glorieux Seigneur Jésus. Avez-vous remarqué une chose? Qui avait fermé les portes de la chambre là haute, là où ils étaient? Était-ce le diable? Non, ce n'est pas le diable qui avait fermé ses portes. Était-ce le Seigneur? Non. Était-ce les Juifs? Non. Les portes étaient fermées, ils étaient comme en prison. Et qui les a mis en prison? Le Seigneur, le diable, les Juifs, tout ça? Mais pas du tout. Qui les a mis en prison? Eux-mêmes. Ils se sont mis eux-mêmes en prison.
N'est-ce pas une tragédie? Nous, on dirait aujourd'hui, ah, c'est lui qui m'a mis en prison. C'est à cause de l'autre que je suis en prison. C'est à cause de celle-ci que je suis en prison. Pas du tout. C'est toi qui as fermé la porte. Il est vrai que les autres, peut-être, n'ont pas bien agi, c'est vrai. Mais finalement, la clé, c'est entre tes mains. C'est pas tellement ce qui t'arrive qui est important, c'est comment tu réagis à ce qui t'arrive qui est très important. Alléluia! Ça, c'est très important. Alléluia. Et les disciples ici avaient mal réagi à quelque chose qui leur était arrivé. Qui avait fermé cette porte? C'était eux-mêmes. Et comment pouvaient-ils s'en sortir? Eh bien, il n'y avait qu'eux-mêmes qui pouvaient de nouveau ouvrir la porte et sortir de cette prison dans laquelle ils se trouvaient. C'est pourquoi je vais vous donner maintenant 5 vérités importantes concernant la crainte. Vous le remarquez, les disciples étaient paralysés. Ils étaient comme liés. Pouvaient-ils accomplir le ministère que Dieu leur a donné? Pas du tout. Et savez-vous que des multitudes de gens sont dans un esprit de crainte, d'anxiété? C'est un peu la maladie de notre siècle aussi. Les spécialistes nous le disent, n'est-ce pas? Et cette crainte nous paralyse, littéralement. C'est pourquoi il faut absolument savoir comment être libéré de cette crainte, sinon nous ne pourrons pas accomplir notre mission, la mission que le Seigneur veut nous donner dans cette vie. Il nous faut absolument sortir de cette prison. Il nous faut absolument connaître la vérité sur la crainte afin d'en être délivré. Sinon, comme les disciples, nous restons en prison. Nous fermons les clés nous-mêmes, la porte nous-mêmes, et nous sommes ici incapables d'en sortir. Mais nous sommes ici pour voir comment sortir ce soir. Alléluia, il y a un moyen. Que le Seigneur nous aide maintenant à comprendre l'importance d'en être délivré. Voilà donc 5 vérités concernant la crainte. Ce sont 5 vérités importantes qui vont nous donner de réaliser les conséquences, les effets de la crainte dans nos vies. La crainte a des effets multiples et nous allons le voir. Mais nous allons bien sûr aussi voir comment en être délivrés. La première vérité concernant la crainte est celle-ci. Nous devons savoir que le péché engendre la crainte. Quand est-ce que la crainte a commencé? Dans le jardin d'Éden, c'est exact. C'est à ce moment-là que la crainte est venue dans le cœur de l'homme. Mais quand? Quand l'homme a désobéi à la parole de Dieu. Il nous est dit dans le livre de Genèse que le soir, le Seigneur venait vers Adam et Ève. Et il avait l'habitude de communier avec ses enfants. Il y avait une relation merveilleuse d'amour entre le Créateur et sa créature. Pourquoi? Parce que ces relations étaient des relations d'amour. Quand l'Éternel venait voir Adam et Ève n'avaient pas peur de Dieu, pas du tout. Au contraire, l'un comme l'autre désirait cette communion. Il y avait une merveilleuse communion d'amour entre Dieu et sa créature. Mais à un moment donné, lorsque Adam et Ève ont désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit que vers le soir, l'Éternel est venu et il a appelé Adam. Adam, où es-tu? Et la parole de Dieu nous dit qu'Adam a dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà où la crainte a commencé. La crainte est venue dans ce monde par le péché, par la rébellion de l'homme, par la désobéissance de l'homme. Voilà où la crainte a commencé. Aujourd'hui encore, des multitudes sont dans la crainte. Pourquoi? À cause du péché. À cause de leur rébellion. À cause de leur désobéissance. Et un homme qui n'a pas fait la paix avec son Dieu, un homme qui n'a pas reconnu son état de pécheur devant Dieu, cette personne-là sera constamment dans la crainte d'une manière ou d'une autre. car le péché qui n'est pas pardonné dans une vie produit une crainte. Et c'est pourquoi l'homme se cache. Nous nous cachons. Bien souvent nous disons, mais où est Dieu? Dieu se cache aujourd'hui. Pas du tout. C'est un grand mensonge. La Bible nous révèle que ce n'est pas Dieu qui se cache, c'est l'homme qui se cache. Mais moi je voudrais bien voir Dieu, il est toujours caché, on ne le voit jamais celui-là. Mais la Bible nous révèle que ce n'est pas du tout cela. Mais que c'est l'homme qui se cache. Quand Dieu nous parle, nous nous cachons. Nous ne voulons pas obéir. Nous nous rebellons. Mais la Bible nous révèle un Dieu qui cherche la communion avec sa créature. Mais il y a un obstacle, c'est le péché. Peut-être que certains d'entre nous ici ont une crainte permanente en eux. La crainte du jugement, la crainte d'avoir déplu à Dieu, la crainte d'avoir péché. Il n'y a qu'un moyen d'en sortir. La clé qui vous ouvre la porte de la libération, c'est la confession. La confession de votre péché. Réalisez que c'est votre péché qui engendre la crainte en vous et qui vous empêche de communier avec Dieu. Dieu est saint et Dieu ne peut pas entrer en communion avec un homme pécheur tant que son péché n'est pas pardonné. Et que l'homme mette sa confiance dans le sang de la croix pour être purifié de tout péché. Alléluia! C'est une vérité très importante. Il y a deux côtés au péché de l'homme. Il y a le côté action du péché. Donc nous avons péché, les uns ont menti, volé, tué, désobéi, enfin toutes sortes de choses. Mais il y a aussi l'autre côté du péché qui fait que on peut être encore dans la crainte. L'autre côté, celui-ci, on peut même avoir demandé pardon à Dieu de ses péchés tout en étant encore dans la crainte. Savez-vous pourquoi ? Parce que nous vivons encore pour nous-mêmes. Et il y a une autre vérité, une autre définition du péché qui est celle-ci, c'est faire sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Voyez-vous, nous pouvons même avoir confessé nos péchés à Dieu, mais si nous vivons encore pour nous-mêmes, au lieu de vivre pour le Seigneur, il y aura constamment une crainte dans notre vie. Car la crainte vient de ce que l'homme est préoccupé de lui-même. Et tant qu'un homme vit pour lui-même, il sera craintif. Lorsqu'on dit donc que je confesse mon péché, ce n'est pas seulement les péchés, mentir, voler, avoir eu des mauvaises pensées, mais c'est aussi dire, oh mon Dieu, à partir de maintenant, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi. Si quelqu'un prend cette décision-là, il n'est plus centré sur lui-même. Il est délivré de son propre moi et il vit pour le Seigneur. Et quand quelqu'un a décidé de ne plus vivre pour lui-même, mais de vivre pour le Seigneur, cette personne expérimente une délivrance de la crainte et une paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alléluia! Ceci est très important. Beaucoup d'entre nous, même si vous êtes chrétien et que vous vivez encore pour vous-même et que vous n'avez pas abdiqué votre vie entre les mains du Seigneur en disant « Oh mon Dieu, je ne veux plus vivre pour moi, mais pour toi. » Tant que vous ne faites pas cela, il y aura une crainte. Parce que l'homme, tant qu'il vit pour lui-même, il sera craintif. Pourquoi est-ce qu'au début, Adam et Ève n'avaient pas de crainte ? Parce qu'ils vivaient non pas pour lui-même, mais pour Dieu. Amen. Voyez-vous, le centre était différent. Avant la chute, Adam avait comme centre Dieu. Il vivait pour Dieu. Il n'y avait rien pour lui. C'était tout pour l'Éternel. Et voilà pourquoi il était dans une paix infinie qui surpasse toute intelligence. Mais à partir du jour où le centre a changé, où le centre est devenu lui-même, alors la crainte est entrée. Il est constamment préoccupé de lui-même. La crainte est là. Et il ne s'en sort pas. C'est pourquoi lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on doit dire non seulement, « Oh mon Dieu, je confesse mon péché, le mal que j'ai fait, mais je veux aller au péché, à la racine du péché, et dire, « Oh Seigneur, à partir de maintenant, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour toi. » Comme Jésus l'a dit à son Père, « Oh Père, non ma volonté, mais la mienne. » Voilà ce que Jésus est venu apporter sur cette terre. Non ma volonté, voyez-vous, il n'y avait rien pour lui. C'est pourquoi Jésus était dans une paix infinie. C'est pourquoi il pouvait dire « La paix soit avec vous ». Parce que le principe qu'il y avait dans sa vie était un principe divin. Il ne vivait pas pour lui, non ma volonté, mais ta volonté. Ne l'oubliez pas, le péché, la définition du péché, est celle-ci, c'est faire sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Si nous voulons être libérés de cette puissance du péché, il nous faut à tout prix avoir cette attitude. Oh Seigneur, à partir de maintenant, je ne veux plus vivre pour moi-même. Le centre ne doit pas être moi-même, mais toi et pour toujours. Alléluia! Vous verrez qu'une crainte va disparaître et qu'une paix va envahir votre âme. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyons maintenant la deuxième vérité concernant la crainte. C'est que la crainte peut engendrer la maladie et même la mort. La crainte peut engendrer la maladie et même la mort. Beaucoup de psychologues, de spécialistes, de même des médecins, je lisais un livre qui parle des effets de la crainte sur le corps de quelqu'un. Et peut-être que beaucoup sont malades à cause de la crainte qui est dans leur cœur, dans leur esprit. L'esprit étant continuellement dans la crainte, le corps en subit les effets. C'est pourquoi l'homme n'est pas fait pour vivre dans la crainte, comprenez-vous? Et s'il vit continuellement dans la crainte, son corps en souffrira. Les effets de la crainte se voient jusque dans le corps. Et même quelqu'un peut mourir à cause de la crainte. Dans le livre que je lisais, l'auteur parlait d'un médecin qui venait de visiter deux malades à l'hôpital. Ce même jour, il a vu ces deux malades. Un de ces malades était très gravement malade et sur le point de mourir. Tandis que l'autre malade n'était pas gravement malade et il était sur le point de quitter l'hôpital. Voilà que le docteur a fait le diagnostic. À l'un, bien sûr, il lui disait bien que c'était malheureusement terminé pour lui. Et que pour l'autre, eh bien, qu'il s'attende que dans quelques jours, il allait sortir. Il fait ses deux diagnostics, il met ça dans une enveloppe. Mais malheureusement, en mettant ses diagnostics dans l'enveloppe, il se trompe d'enveloppe. Il se trompe d'enveloppe. Catastrophe. Alors le diagnostic qui parlait du malade, qui était gravement malade et qui allait mourir, il met ça dans l'enveloppe de celui qui n'avait rien du tout. Et le diagnostic de celui qui n'avait rien, il met ça dans l'enveloppe du bonhomme qui allait mourir. Les deux reçoivent ça. Et vous savez ce qui s'est passé? Celui qui n'avait pratiquement rien, il est mort. Et celui qui était gravement malade, au bout de quelques temps, il était guéri. Alors voyez-vous, la puissance de la crainte, dans un sens, qui nous montre combien la crainte peut littéralement détruire quelqu'un, même lorsque nous n'avons apparemment rien du tout. Et quel est le remède à cette crainte? Comment résoudre un peu ce problème-là? La Bible nous dit qu'un cœur content est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. Si vous voulez être délivré de la crainte dans ce domaine-là, il y a un bon remède pour vous. C'est la joie et la louange. Ceci est très, très important. Un cœur content est un bon remède. Mais un esprit abattu, autrement dit un esprit craintif, un esprit négatif, un esprit qui découragé, c'est un esprit qui dessèche les os. Une fois, j'ai lu aussi le témoignage d'un malade qui était aussi sur le point de mourir. Les docteurs lui avaient dit, demain matin, malheureusement, vous ne serez plus de cette terre. Tellement sa situation était grave. Mais ce soir-là, quelqu'un est allé lui parler du Seigneur. Et heureusement pour lui, il a accepté le message de l'Évangile et il s'est converti. Il était tellement heureux d'avoir rencontré le Seigneur juste avant de mourir qu'il a commencé à le louer, à se réjouir. Il a passé toute la nuit à bénir le Seigneur et à lui dire, Seigneur, c'est merveilleux, tu m'as sauvé juste au dernier moment, mais je suis quand même sauvé, gloire à ton nom. Il s'est réjoui, il s'est réjoui, il s'est réjoui. Il a un cœur content est un bon remède. Il s'est réjoui, alléluia, merci Seigneur. Toute la nuit, il l'a passé comme ça. Le lendemain, quand les docteurs sont venus, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Non pas un mort, mais un malade qui était complètement guéri. Pas seulement spirituellement, mais physiquement. Il était guéri. Ça, au moins, ça sort du fond du cœur. Ah ben c'est bien, vous voyez, on commence à rire et à se réjouir comme le malade, c'est bien. Savez-vous que certains peuvent être guéris maintenant en se réjouissant comme cela? Ne l'oubliez pas, je le répète, un cœur content est un bon remède. Beaucoup de craintifs au milieu de nous, laissez-moi vous dire, c'est très important. Beaucoup de craintifs au milieu de nous peuvent être guéris tout simplement en louant le Seigneur. Ne l'oubliez pas. Là, David lui-même le disait, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Et ce passage du psaume 18 nous montre, ses ennemis c'était la crainte, la frayeur. Saül le poursuivait du matin au soir, il était dans la crainte continuellement. Mais il a dit, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous ses ennemis, de la crainte, de la frayeur et de l'anxiété. Il y a une puissance dans la louange, dans la joie. Voulez-vous le faire? Voulez-vous mettre en pratique cette vérité? Vous ne serez plus le même. Beaucoup d'entre vous, vous n'aurez pas besoin de dépenser votre argent. Gardez votre argent pour le Seigneur ou pour autre chose. Mais réjouissez-vous un petit peu. Voilà un bon remède pour vous ce soir. Alléluia. Ah, ça me fait plaisir que vous puissiez rire de tout votre cœur ce soir. Au moins, on vit ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Ça n'a jamais fait du mal à quelqu'un de rire de tout son cœur. Surtout quand on se réjouit dans le Seigneur. De Paul disait, je vous le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et où est-ce qu'il disait cela? Dans sa prison. Dans sa prison. Et vous savez, dans sa prison, l'avenir était sombre pour lui. La crainte pouvait le pénétrer et le paralyser complètement. Et l'empêcher d'écrire ces merveilleuses épîtres que nous avons. Si Paul, dans sa prison, avait réagi d'une manière négative, nous n'aurions presque pas d'épître maintenant. Mais Dieu soit béni. Paul avait un secret dans sa prison. Voici ce qu'il écrit aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il dit de se réjouir dans le Seigneur. Pas tellement dans les circonstances, parce qu'il y a des fois, ce n'est pas agréable. Mais dans le Seigneur. Et en se réjouissant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a été délivré de toute frayeur, de toute dépression. Et non seulement il a été délivré, mais l'Esprit de Dieu est venu sur lui. L'Esprit de révélation, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Et il a pu écrire sous l'inspiration de l'Esprit. Alléluia! Non seulement tu seras délivré de la crainte, mais tu peux être aussi guéri de tes maux. La crainte engendre la maladie et la mort. Mais la louange engendre la guérison et la vie. Alléluia. Mais ces vérités, il ne faut pas seulement les entendre. Mettez-les en pratique. Faites-le. Toi qui es craintif. Toi qui te sens oppressé, qui es plein de frayeur. Réjouis-toi davantage. Mais réjouis-toi dans le Seigneur. Vous allez dire, mais il n'y a rien pour lesquels je dois me réjouir. Mais la Bible dit, ne dit pas de se réjouir à cause de ceci et de cela. La Bible dit de se réjouir dans le Seigneur. Passe du temps uniquement à dire gloire au Seigneur. Loue-le, le Seigneur. Il est digne de louange, n'est-ce pas vrai? Il est digne de louange. Commence à dire combien il est merveilleux. Commence à dire combien il est grand. Commence à dire combien il est fidèle. Commence à dire tout cela, mais dis-le. Tu en ressentiras un bienfait physique. Alléluia.
Alléluia. Mais ces vérités, il ne faut pas seulement les entendre. Mettez-les en pratique. Faites-le. Toi qui es craintif. Toi qui te sens oppressé, qui es plein de frayeur. Réjouis-toi davantage. Mais réjouis-toi dans le Seigneur. Vous allez dire, mais il n'y a rien pour lesquels je dois me réjouir. Mais la Bible dit, ne dit pas de se réjouir à cause de ceci et de cela. La Bible dit de se réjouir dans le Seigneur. Passe du temps uniquement à dire gloire au Seigneur. Loue-le, Seigneur. Il est digne de louange, n'est-ce pas vrai? Il est digne de louange. Commence à dire combien il est merveilleux. Commence à dire combien il est grand. Commence à dire combien il est fidèle. Commence à dire tout cela, mais dis-le. Tu en ressentiras un bienfait physique. Alléluia. Troisième vérité maintenant. Troisième vérité. La crainte est un aimant qui nous attire des difficultés. Je dis bien, la crainte est un aimant. Et vous savez à qui je pense en disant troisième vérité maintenant. Troisième vérité. La crainte est un aimant qui nous attire des difficultés. Je dis bien, la crainte est un aimant. Et vous savez à qui je pense en disant cela? Job 3, 25. Nous connaissons tous cette parole de Job. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Avez-vous remarqué que beaucoup de personnes ont constamment des ennuis? Constamment. Et ces personnes sont en train de se plaindre contre celui-ci, contre celui-là. On se plaint continuellement. Mais ces personnes devraient se poser une question et comprendre cette parole de Job qui dit que c'est ce que je crains qui m'arrive. Beaucoup de choses nous arrivent non pas à cause de la faute des autres, non pas à cause même du diable, non pas même à cause du Seigneur, mais à cause de vous, à cause de votre crainte. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Combien d'entre nous nous disons, oh, je suis sûr que ça ne va pas marcher. Mais je suis sûr, je vais vous dire une parole un peu terrible, que je vais avoir le cancer, je suis sûr. Mais vous savez qu'il y en a des personnes comme ça. Mais je suis sûr que ça ne va pas aller, que mes enfants vont mal tourner, je suis sûr. Regardez-moi ça. Vous ne voyez pas là quelque chose de maladif? Je suis sûr que mon mari va m'abandonner. Je suis sûr que ma femme ne m'aime pas, je suis sûr. Mais combien d'entre vous vous dites cela? Et lorsque la chose arrive, vous commencez à vous plaindre, à pleurnicher. Et on dit, oh, tout le monde est contre moi, et Dieu m'a abandonné, pourquoi est-ce que je suis dans cet état-là? Mais c'est à cause de toi. Tu dois t'en plaindre à toi-même. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. C'est pourquoi vous devez veiller à ce que vous dites. Au lieu de dire, je suis sûr que je serai malade, je suis sûr que mes enfants vont m'abandonner, je suis sûr que mon mari va me quitter, je suis sûr que ça ne va pas marcher, commencez à penser différemment. Et la clé pour la délivrance de cette prison-là, c'est la foi. Vous devez croire que Dieu vous aime. Vous devez croire qu'il ne vous abandonnera pas. Vous devez croire qu'il sera là dans votre foyer. Vous devez le croire. Alléluia.
Alléluia.
C'est une parole extraordinaire. Mais vous devez faire attention à cela, à ne pas confesser continuellement vos craintes. Car en faisant cela, vous ouvrez vous-même la porte à l'ennemi dans votre vie. Il ne faut pas vous complaire dans vos craintes. Dans cet état-là, combien se plaisent? Il y a comme un état de pitié de soi qui est là. On se plaît. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais qu'est-ce qu'il a pensé, Job? Il a dû se dire, oh, c'est trop beau pour être vrai. Je suis béni à la maison. Mes enfants sont bénis. Mon champ est béni. Je suis béni, mais je ne sais pas si ça va durer longtemps, tout ça. Ah, dans le fond de son cœur, il avait ces pensées-là. Non, c'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Certaines personnes, quand elles n'ont plus de soucis, elles se disent, mais je suis pas normal. C'est pas normal que je me fasse plus de soucis. Ah, mais pasteur, priez pour moi, parce qu'il me semble que j'ai plus de soucis, c'est pas normal. J'ai plus de crainte, pasteur. J'ai plus de crainte. C'est pas normal, c'est pas normal. Priez pour moi. Mais combien d'entre nous nous sommes habitués à constamment être négatifs? Celui qui est dans la crainte, c'est celui qui voit toujours du négatif dans des circonstances même positives. Avez-vous remarqué? Même quand tout va bien, celui qui est craintif, il vous dira toujours: ah oui, oui, c'est bien, mais il y a ça qui ne va pas. Tandis que celui qui est plein de foi, il voit exactement le contraire. Dans les circonstances négatives, il vous dira: oui, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose de positif, mais il y a quand même ça qui est positif. Cette personne-là essayera de découvrir la plus petite parcelle de positif dans tout ce qui est négatif. Ça, c'est la foi. Alors que votre ciel est noir, il y a toujours un petit coin de ciel bleu qui est là. Un prisonnier en prison peut regarder de deux façons. Ou il regarde par terre et voit la boue, ou il regarde en haut et voit les étoiles. Comment est-ce que vous regardez? Où est-ce que vous regardez? Regardez en haut ce soir. Ne regardez plus dans la boue. Ne regardez plus vos barreaux. Mais au travers de vos barreaux, regardez le ciel. Le ciel est encore là. Le soleil brille encore. Son amour dure encore. Alléluia! Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais on pourrait dire aussi: ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. Amen. Alléluia! Amen. Commence à croire que Dieu va te bénir. Commence à croire que Dieu va t'encourager. Commence à croire que Dieu t'aime. Commence à croire que Dieu va bénir ton foyer. Commence à le croire. Ça, c'est la vérité. Commence à le croire. Mais tu dois bannir toute pensée de crainte dans ta vie. Arrête de dire: je suis sûr que ça ne va pas aller. Mais commence à dire: je suis sûr que ça va aller avec l'aide du Seigneur. Alléluia! Je suis sûr, avec l'aide du Seigneur, ça ira. Beaucoup d'entre vous, vous devez faire un effort pour cela, parce que vous avez été habitués à être négatif constamment pendant 10 années. Et je l'avoue, ça se change pas du jour au lendemain, cela. C'est un apprentissage, c'est même un combat, j'allais le dire. C'est un combat pour beaucoup d'entre vous, mais c'est le bon combat de la foi. Alléluia! Et pourquoi c'est un bon combat? Parce qu'avec le combat du Seigneur, on est vainqueur d'avance. Et l'ennemi est vaincu d'avance. Je trouve que vous auriez pu dire alléluia, là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voyons maintenant une quatrième vérité concernant la crainte. La crainte pousse un homme à enterrer ses talents. Avez-vous bien entendu ce que j'ai dit? La crainte pousse un homme ou une femme à enterrer ses talents. C'est Matthieu 25:25 qui nous dit ceci. Vous savez la parabole des talents? Il est dit ceci: celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux. Voilà ce que son maître lui a dit. Toi, tu n'es qu'un méchant et un paresseux. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure le Seigneur lui a dit ceci. Mais avez-vous remarqué, à cause de la crainte, cet homme a enterré son talent, les dons, les capacités que Dieu lui a données. Beaucoup d'entre vous, vous avez des talents, mais à cause de la crainte, vous avez tout enterré. À cause de la crainte, vous ne mettez plus en pratique les talents que Dieu vous a donnés. Et voilà pourquoi vous souffrez intérieurement. Voilà pourquoi vous réalisez que votre vie n'est pas utile. La plus grande joie d'une personne sur cette terre, c'est de se sentir utile, n'est-ce pas vrai? Mais la crainte peut vous enlever cette joie-là, cet épanouissement-là. La crainte paralyse quelqu'un et l'empêche de jouir des talents que Dieu lui a donnés. Cet homme avait 3 craintes dans la parabole. 3 craintes. La première crainte était la crainte à l'égard du Seigneur. Comment est-ce qu'il a appelé le Seigneur?
Je savais que tu es un homme
dur
et que tu moissonnes là où tu n'as pas
semé. Qu'est-ce qu'il voulait dire cet homme, autrement dit? Pourquoi est-ce qu'il avait finalement peur du Seigneur? Il lui a dit parce qu'il est, tu es dur. Et pourquoi il est dur, le Seigneur?
Parce que tu sèmes là où tu n'as pas semé. Autrement dit, Seigneur, tu me demandes quelque chose qui est impossible à faire. Moissonner là où on n'a pas semé, c'est une chose impossible, n'est-ce pas vrai? Vous pouvez moissonner là où vous n'avez pas semé, vous? Vous moissonnez que des ronces? Des orties? Mais si vous n'avez pas semé, vous ne pouvez pas moissonner. Et voilà ce que cet homme dit. Seigneur, tu es dur. Tu es un peu injuste. Tu me demandes quelque chose qui est impossible à faire. Et voilà pourquoi cet homme était dans la crainte. Il mettait en cause la sagesse de Dieu et la justice de Dieu. Il ne connaissait pas le Seigneur. Il le prenait pour un tyran. Comme pour lui dire, Seigneur, tu me demandes quelque chose que je ne peux pas faire. C'est un mensonge. Le Seigneur lui dit, tu es un paresseux. Je t'ai donné des talents. Et tu es capable de mettre ces talents en pratique. Tu peux le faire. Ne dis pas que je suis dur. Quand Dieu ordonne quelque chose, il nous donne toujours la grâce de le faire. Quand Dieu envoie quelqu'un, il pourvoit toujours à cette personne. Amen. Quand Dieu dit que vous pouvez être délivré de la crainte, vous pouvez être délivré de la crainte. Quand Dieu dit que vous pouvez pardonner vos ennemis, vous pouvez pardonner vos ennemis. Quand Dieu dit que vous pouvez être une personne utile, vous pouvez être utile. Si vous ne croyez pas cela, vous faites Dieu menteur. Et que c'est comme si vous lui disiez, Seigneur, tu es dur, tu es injuste. Tu me demandes quelque chose d'impossible. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Quand Dieu nous dit quelque chose, nous pouvons accomplir ce qu'il nous demande. Amen. C'est peut-être au-dessus de nos capacités, mais jamais au-dessus des siennes. Alléluia. Ça nous dépasse, nous, mais ça ne dépasse pas le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la première crainte à l'égard de Dieu. Il y avait une deuxième crainte à l'égard des hommes, cette fois. Il nous est dit que l'homme a caché son talent où? Dans sa maison? Dans un champ. Il est allé dans un champ cacher son talent. Autrement dit, il avait aussi une crainte des hommes. Il est allé se cacher là-bas et il ne voulait pas être vu des hommes. À cause de cette crainte des hommes, il ne pouvait pas aussi mettre en pratique le talent que Dieu lui a donné. Combien d'entre nous, nous sommes esclaves des hommes? La crainte de l'homme est plus forte que la crainte de Dieu dans notre vie. Mais nous pouvons dire que celui qui craint Dieu ne craindra jamais l'homme. Alléluia. La crainte de l'homme tend un piège, nous dit la Bible. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Crains Dieu. Ne crains pas l'homme. Cherche premièrement l'approbation de Dieu dans ta vie et non l'approbation des hommes. Alors tu seras délivré de la crainte de l'homme. Mais combien d'entre nous, nous recherchons constamment l'approbation des hommes et quand nous ne sommes pas approuvés, nous ne faisons plus rien du tout. Mais nous devons changer notre façon de voir. Si nous voulons être délivrés de la crainte de l'homme, il nous faut avant tout et par-dessus tout désirer la crainte de Dieu dans notre vie. Et je le répète, celui qui craint Dieu ne craindra plus jamais l'homme. Alléluia. Ne crains pas l'homme, cherche l'approbation de Dieu. Et ta crainte des hommes disparaîtra. Il y avait une troisième crainte, une crainte par rapport à lui-même. Et quelle était cette crainte? C'est un peu ce que je vous ai dit, mais une crainte de ne pas être capable de faire ce que Dieu lui demandait de faire. C'est pourquoi Dieu lui a dit, tu es paresseux. Je t'ai donné la force, mais tu ne veux pas mettre en pratique ce que je t'ai donné. Et il lui dit aussi, tu es méchant. Pourquoi il lui dit méchant? Parce que s'il mettait en pratique le talent qu'il lui donne, cet homme va être en bénédiction, non seulement pour lui-même, mais pour une quantité de personnes. Avec le talent que Dieu vous donne, vous allez être en bénédiction à un grand nombre de personnes. Et si vous n'accomplissez pas votre mission, vous frustrez les autres de la bénédiction de Dieu. Et à cause de cela, vous êtes une personne méchante. Il y a une méchanceté dans votre cœur parce que vous pouvez faire beaucoup de bien et vous ne le faites pas. Vous pouvez être un instrument béni entre les mains du Seigneur et vous ne l'êtes pas. Non pas parce que le Seigneur ne veut pas, mais parce que vous ne le voulez pas. Parce que vous êtes paresseux. Vous pouvez être en bénédiction à un grand nombre. Vous pouvez l'être. Ce n'est pas qu'il faut rechercher le nombre, bien sûr. Mais vous pouvez être en bénédiction. Et si vous ne l'êtes pas, le Seigneur dit, tu es méchant. Tu es méchant parce que si tu mets en pratique ce que je t'ai donné, tu seras en bénédiction à un grand nombre. Et si tu ne le fais pas, il y a de la méchanceté dans ton cœur. Parce que tu prives les autres de grandes bénédictions. Tu prives les autres, tu te prives toi-même et tu prives les autres de grandes bénédictions. Dites-moi, si quelqu'un a découvert maintenant le remède contre le cancer, ça, on cherche encore, n'est-ce pas? Enfin, supposons que quelqu'un est guéri, qu'il a un remède miracle et qu'il garde ça dans sa poche et qu'il n'en parle à personne. Alors qu'il y a des milliers de cancéreux. Et que lui, il a son petit secret à lui. Il a pris son petit cachet pour qu'il est guéri. Et qu'il n'en parle à personne. D'après vous, comment est cette personne?
Égoïste
et méchante. C'est une personne méchante. Tu es vraiment méchant parce que ce que tu as, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour les autres. Oh, que Dieu nous donne de comprendre ces choses, n'est-ce pas vrai? Très important. Si Dieu t'a donné un talent, c'est que tu peux le mettre en pratique, fais-le. Fais-le et tu verras que toute crainte disparaîtra de ton cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et je termine maintenant. On en est au cinquième, hein, je crois, oui. La cinquième vérité est celle-ci. La crainte nous fait croire que Dieu nous a abandonnés. Marc 4, 40 nous dit ceci. Dans l'histoire de la tempête apaisée, nous voyons les disciples dans une situation tragique. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ?» Nous voyons donc par là que la crainte, la peur, nous fait croire que Dieu nous a abandonnés. Ils sont allés vers le maître. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons » voyez-vous. Autrement dit, ils voulaient dire au Seigneur, « Mais Seigneur, tu ne t'occupes pas de nous. Tu nous as abandonnés. » Mais tu nous as abandonnés, Seigneur. Mais pourquoi ils avaient de telles pensées? C'était la crainte qui les faisait parler ainsi. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Est-ce que le Seigneur les avait abandonnés? Pas du tout. Le Seigneur était là, lui, il dormait. Il était, lui, dans les bras de son Père, plein de confiance. Et pourquoi avait-il peur? Pourquoi? Parce qu'il regardait au tourbillon. Et aux eaux plutôt qu'au Seigneur. S'ils avaient regardé au Seigneur qui dormait paisible, je suis sûr que leur foi aurait été fortifiée, n'est-ce pas vrai? Ils se seraient dit, mais c'est ridicule, pourquoi on se casse la tête? Regardez le maître qui dort, mais allons dormir avec lui! Faisons vite un dortoir ici! Ah, il y a bien de l'eau qui pénètre dans le bateau, c'est vrai. Mais puisque le Seigneur dort, nous pouvons dormir avec lui. Il est permis de dormir lorsque le Seigneur dort. S'ils avaient regardé au maître, eh bien, ils n'auraient pas eu cette crainte. Mais où est-ce qu'ils ont regardé? À la tempête. Où est-ce qu'ils ont regardé? Ils se sont regardés les uns les autres aussi. Je ne sais pas ce qu'a fait Pierre cette fois-là. S'il criait fort, « Maître, maître,
Les autres, en voyant Pierre crier comme cela, ils ont dû crier encore plus fort. T'as vu, regarde Pierre, il a la frousse. Bah alors dis donc, nous, si lui a la frousse, alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ils se sont encouragés les uns les autres à avoir peur. Vous savez que la peur est contagieuse. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël qui était dans la crainte, ceux qui étaient dans la crainte, ils étaient éliminés du combat, n'est-ce pas vrai? Tous ceux qui avaient peur étaient éliminés. Et dans l'armée de Gédéon, il y en avait 22 000 qui étaient dans la crainte. Et 22 000 ont été mis de côté. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur, et en ayant peur, ils font peur aux autres. Combien d'entre vous? Hein, vous avez la frousse? Puis, non, mais t'as pas peur, toi? C'est pas normal. C'est pas normal. La crainte est contagieuse. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, s'ils regardaient autour d'eux. Naturellement, ils avaient de la crainte. Mais ils ont bien regardé au bon endroit. Beaucoup d'entre vous, vous avez de la crainte. Vous regardez à vos problèmes. Vous regardez aux hommes. Et loin de vous apaiser, la crainte augmente. Mais ce soir, si vous voulez qu'il se passe quelque chose, regardez à Jésus. Alléluia. Regardez-le couché sur la poupe, à la poupe. Regardez-le dans la paix de Dieu. Regardez-le aussi se lever avec confiance et autorité. Regardez-le parler à la mer. Regardez-le parler à l'orage. Regardez-le agir avec autorité. Et vos craintes disparaîtront. Alléluia. Quelle est donc la clé pour cette cinquième vérité? C'est la vérité de l'amour de Dieu pour nous. Dieu vous aime. Il prend soin de vous. Et la Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Dites-vous, alors que vous êtes dans la barque, alors que tout est contre vous, dites le Seigneur même. Ne dites jamais qu'il vous a abandonné. C'est le plus grand mensonge. Nous pouvons abandonner le Seigneur, mais lui ne vous a jamais abandonné. C'est pas parce qu'il est silencieux qu'il vous a abandonné, pas du tout. Au contraire, pourquoi le maître était-il silencieux? Parce qu'il voulait que ses disciples fassent agir leur foi. Amen. Voilà. Il s'était tu pour les pousser à faire agir leur foi. Et il leur a dit, pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous point de foi? C'est comme s'il disait, mais vous auriez pu avoir la même attitude que moi. Mais pourquoi? Ce que j'ai fait, finalement, n'est pas exceptionnel. La paix que j'ai, vous pouvez l'avoir aussi. Si c'est le silence un peu autour de vous, s'il semble que le ciel est fermé, s'il semble que pour vous, Dieu est comme en vacances et qu'il dort, il est quand même près de vous. Il est quand même dans la barque. Mais il vous demande une chose, fais agir ta foi. Crois que ses bras d'amour t'enveloppent. Crois qu'il ne t'a pas abandonné. Crois qu'il t'aime encore. Crois qu'il s'intéresse à toi. Crois-le, crois en son amour. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons nous courber quelques instants dans la prière maintenant. Le Seigneur vous a montré comment être délivré de cette crainte. Il y a un moyen. Voulez-vous obéir à ce qu'il vous a montré? Si vous obéissez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, vous pouvez triompher de cette crainte. Et s'il y a au milieu de nous des personnes qui sont dans la crainte parce qu'elles se sentent séparées de Dieu, vous dites, moi je suis dans la crainte parce que j'ai péché contre Dieu. Je n'ai jamais demandé pardon sincèrement à Dieu pour mes péchés. Je crois en Dieu, oui, mais mon péché est là, je ne l'ai pas abandonné, je ne l'ai pas confessé. Je vis encore pour moi-même. Je suis malheureux à cause de mon indépendance, de ma rébellion. Je ne suis pas obéissant au Seigneur. Ce soir, je veux me repentir sincèrement. Et je lui dis, ô Seigneur, je suis dans la crainte de la mort, la crainte du jugement, la crainte de la vie, la crainte du passé, la crainte du futur, et dans mon cœur. Mais Dieu peut enlever cette crainte si vous voulez accepter le pardon de vos péchés. Votre péché ôté, c'est la crainte qui est ôtée aussi. Et vous pourrez ainsi retrouver la communion avec votre Père Céleste. Je vais donc faire un appel à ceux qui ce soir sont dans cette crainte à cause de leur séparation d'avec Dieu. Ils sont craintifs parce qu'ils sont loin de Dieu. Ils se sont cachés jusqu'à aujourd'hui. Tu t'es caché loin de lui. Mais ce soir, le Seigneur est venu, est descendu jusqu'à toi. Il t'appelle. Adam, où es-tu? Marc, Marie, Georges, Pierre, où es-tu? Pourquoi te caches-tu? Je te cherche. C'est ton péché qui fait que tu es privé de moi. Moi, je veux te bénir. Mais si tu veux te repentir ce soir, si tu veux abandonner ta vie, ton péché, ta rébellion, ton orgueil, croire ne suffit pas. Tu peux croire et être perdu. Cela ne suffit pas. Croire bibliquement, c'est obéir. C'est faire sa volonté au lieu de faire la vôtre. Je vais donc faire un appel à ceux qui ce soir veulent se donner au Seigneur, avoir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle et devenir un enfant de Dieu pour toujours. Je vais demander à ces personnes, là où elles sont, de lever la main et nous allons prier pour elles. Levez votre main là où vous êtes. Oui, Dieu vous bénit. Dieu vous bénit. Dieu vous bénit. Oui, nous allons prier pour vous. Oui, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, madame. Oui, je vais prier pour vous. Oui, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Oui, oui, le Seigneur est là. Faites sincèrement, si vous venez à lui, le Seigneur va faire un miracle. Le pardon des péchés, le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles n'est pas la guérison d'un corps. Le plus grand des miracles est le pardon des péchés. Et la vie nouvelle, et la nouvelle naissance, et lorsqu'un homme se réconcilie avec Dieu. Je vais demander à toutes ces personnes qui ont levé la main de s'approcher ici maintenant, courageusement. Approchez-vous ici, je vais prier pour vous. Cet appel n'est pas pour les malades. Tout à l'heure, nous prierons pour les malades. Cet appel est pour ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu. Cet appel est pour ceux qui réalisent leur séparation d'avec Dieu et qui jusqu'à présent n'ont jamais dit « Oh mon Dieu, je suis pécheur, je suis un rebelle, j'ai vécu loin de toi, mais ce soir, j'en ai assez de moi-même. Je me repens, je me tourne vers toi. » J'abandonne mon péché, j'abandonne ma vie. Je suis malheureux, Seigneur. Sans toi, je viens à toi comme le fils prodigue. Lorsqu'il était loin de la maison du Père, il était malheureux. Malheureux à cause de sa rébellion, de son égoïsme, de son indépendance. Viens à lui ce soir. Oh, viens à lui avec un cœur sincère. Si tu lui demandes sincèrement pardon de tes péchés, avec le désir de vivre une nouvelle vie et de lui donner entièrement ta vie, un miracle va se passer. Tu vas passer des ténèbres à la lumière. Tu vas passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Tu vas avoir la paix avec Dieu par le sang de Jésus. S'il y en a encore d'autres, vous pouvez vous approcher. Ce moment est solennel. La décision la plus importante d'une personne dans cette vie, c'est la réconciliation avec Dieu. Vous n'acceptez pas une nouvelle religion, vous acceptez une nouvelle vie. C'est la vie qu'il vous faut, c'est le pardon de vos péchés. Et seul Jésus vous donne cela. Si quelqu'un veut encore le faire, faites-le. Faites-le, restons dans la prière, que tous les yeux soient fermés. Ce moment est solennel. C'est une décision qui va complètement changer votre vie et faire de vous la personne la plus heureuse du monde. Alléluia. Courbons-nous dans la prière, alors que nous nous approchons du Seigneur, qui est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Chantons de tout notre cœur, tel que je suis, sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens. S'il y a encore quelqu'un d'autre qui veut dire, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Tel que je suis, avec mon péché, ma rébellion, ma désobéissance, je viens à toi. Je suis malheureux à cause de mon péché.
Je te demande sincèrement pardon.
Tel que
Hallelujah.